France Culture. Les nuits de France Culture.
Dans le bestiaire des animaux fantastiques, certaines créatures font de l'ombre aux milliers d'autres. Le monstre du Loch Ness, le Yeti, ou encore des cryptides moins connus du grand public comme l'Almasti, animent depuis un siècle, voire plus, les imaginations du monde entier. On ne compte plus les expéditions, les projets plus ou moins scientifiques, les coups d'éclat médiatiques pour essayer de trouver et de confirmer l'existence de ces créatures, restées jusqu'à aujourd'hui dans le domaine du merveilleux. Ce sont des objets de croyance dont tout laisse parfois à penser qu'ils ont été inventés de toutes pièces. Le monstre du Loch Ness n'apparaît pas dans sa forme la plus connue avant 1933 et un article de presse dans un journal local. Qu'elles soient réelles ou chimériques, ces créatures ont sans aucun doute réintroduit un certain merveilleux dans notre quotidien, même si l'on est du côté des sceptiques. Ce cinquième et dernier épisode de la série « Les animaux fantastiques » de Jacques Coget, pour le cabinet de curiosité, revient sur ces monstres devenus de véritables icônes culturelles, en compagnie du sociologue Pierre Lagrange et de l'essayiste et critique Michel Meurger. Une émission réalisée par Malika Mesgache est diffusée pour la première fois le 27 février 1998 sur France Culture.
Agence Rotter, Tokyo. Les Japonais ont décidé de mettre leur technique de pointe à contribution pour réussir là où le monde entier a échoué. La capture du célèbre monstre écossais du Loch Ness. Décidé, l'expédition est maintenant organisée comme s'il s'agit de grandes manœuvres avec sous-marins de poche, carabines à flèches, hypodermiques. Le coût de l'opération pour capturer le légendaire Nessie, $500,000. Son organisateur, le promoteur Yoshioko, déclare que l'expédition sera la première tentative sérieuse jamais entreprise dans le monde pour capturer le monstre vivant.
Les animaux fantastiques, aujourd'hui dernière émission des monstres qui font recette. À ceux qui croyaient le temps des dragons révolu, notre exergue emprunté à une dépêche de l'agence Reuter en date du 19 janvier 1973 apporte un sérieux démenti. Car si l'on ne cherche plus aujourd'hui le griffon, la sirène ou le basilic, le terrain de chasse reste ouvert pour le yéti, l'almasti ou le monstre du Loch Ness. D'aucuns diront qu'il ne s'agit pas du tout de la même chose, arguant du fait que les premiers sont essentiellement de fabrication culturelle, alors que les seconds sont avant tout des êtres supposés naturels. Mais nous n'en sommes pas si sûrs, et en voulons pour preuve que de l'Antiquité au Moyen-Âge, le dragon ou la licorne étaient bien perçus comme des animaux réels, décrits dans les bestiaires avec les mêmes soins et au même titre que par exemple l'autruche ou le pélican. Autrement dit, si rien ne permet d'opposer ces deux catégories d'êtres fantastiques, tout au contraire les rapproche, et à ceux qui évoqueraient à titre de preuve le nombre de traces ou de témoignages, voire même de poils ou d'excréments recueillis, nous rappellerons qu'il n'y a pas si longtemps, des dragons empaillés remplissaient les églises et que des cornes de licorne étaient précieusement conservées dans les monastères. Alors Pierre Lagrange, que penser des créatures fantastiques d'aujourd'hui, de ces monstres qui continuent à faire recette, à commencer par le plus populaire d'entre eux, le plus sympathique aussi suite aux aventures de Tintin au Tibet, le fameux Yeti.
Et ce qui est intéressant avec le Yeti, comme les autres bestioles qui appartiennent à la cryptozoologie, c'est qu'on a vu comme ça un certain nombre de journalistes scientifiques, de vulgarisateurs, de zoologistes, de biologistes, instituer une discipline à côté, la cryptozoologie. Donc, parce qu'a priori, on pourrait se demander pourquoi est-ce que le Yeti n'est pas un créature qui intéresse les zoologistes, quoi. Normalement, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de publication dans les revues de zoologie et tout? On a cette discipline qui a été créée à côté. Donc, on a un certain nombre d'objets pour lesquels on invente des disciplines. Et alors, évidemment, quand on discute après avec des porte-paroles de la zoologie ou dans d'autres domaines, ils disent que ce sont des objets de croyance, ce n'est pas C'est pas un sujet légitime de recherche scientifique.
Alors, ce qui est intéressant dans le cas du Yeti, on l'a vu hier avec Benoît Grison, c'est qu'il y a effectivement un dossier scientifique qui peut éventuellement tenir la route. Mais il faut rappeler que le Yeti n'est pas comme ça une créature isolée dans ces montagnes de l'Himalaya, puisqu'il a un cousin au Caucase, l'Almasty, un autre en Amérique du Nord, le Bigfoot, en Afrique, le Kikamba, on en a même un au Pays Basque. Enfin, il y a toute une famille comme ça.
Alors, ce qui est intéressant, oui, quand on suit une affaire, on est saisi par souvent le niveau de compétence, notamment quand on discute avec Benoît Grison, qui est un cryptozoologiste assez particulier, parce qu'il sait intégrer justement le travail des anthropologues, des folkloristes et tout. On est souvent très facilement convaincu de l'existence de quelque chose qui en général est assez éloigné, notamment quand on discute avec Grison, de la figure du Yeti telle qu'on pouvait la voir dans les numéros de radar dans les années 50, des choses de genre.
Ou dans Tintin au Tibet.
Donc c'est pas tout à fait la même bestiole. Alors quand on se détache un peu de ces affaires pour essayer en gros de prendre une carte de la planète et d'y mettre les différents animaux, là on se rend compte effectivement qu'on a du mal à trouver une région du globe où il n'y a pas une créature hominoïde velue, un peu bizarre et tout. Il y en a à peu près partout. Et c'est là où ça devient un peu difficile à croire.
Alors prenons un cousin du Yeti, l'Almasty, donc dans le Caucase, où là c'est pareil, on a à peu près le même type de description, le même type d'expédition qui part à la recherche de l'Almasty, mais qui évidemment n'en ramène pas. Et puis on a tout le versant folklorique.
Alors, moi, je me suis intéressé à l'Almasty parce qu'en 92, il y a eu tout un tapage médiatique autour d'une expédition qui voulait se monter en suivant les travaux qui avaient été faits par une Française qui a longtemps vécu en Russie, en URSS, Marie-Jeanne Kaufmann, qui est la grande spécialiste de l'Almasty du Caucase. Marie-Jeanne Kaufmann s'y intéresse depuis les années 50 quand elle a rencontré Boris Porchnev, qui était un très célèbre historien soviétique, qui est un spécialiste des soulèvements des mouvements populaires français au moment de la Révolution et après. Et Porchnev, dans les années 50, a participé à des expéditions pour chercher le Yéti et l'Almasty. Et c'est donc dans les années 50, alors qu'il faisait des recherches plutôt en Mongolie, qu'ils ont découvert comme ça l'existence d'une... On leur a signalé qu'il y aurait aussi dans le Caucase des créatures humanoïdes, velu qui ressemblerait à des Néandertals, on fait une variété locale de Yeti. Ce qui est intéressant, c'est que Kaufmann et Porchnev ont pris ça très à la légère au début, parce que pour eux, le Caucase, c'était comme la forêt de Fontainebleau pour nous. Et donc, ils n'y croyaient pas. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont été obligés de plier sous le poids des récits. C'est-à-dire que les récits se sont accumulés. Ils sont allés. Marie-Jeanne Kaufmann avait participé à des campagnes pendant la Seconde Guerre mondiale dans le Caucase. Elle connaissait très bien la région. Elle y faisait de l'alpinisme. Et quand elle est allée trouver les gens, en se familiarisant avec les gens, elle a commencé à recueillir des tas de récits. Quand je l'ai interviewée en 92, elle nous a raconté tout le processus qui l'a amené du scepticisme le plus total à l'idée qu'il se passait quelque chose à côté duquel elle était complètement passée. Quoi. Elle n'avait absolument pas vu pendant des années ce qui se passait. Et un beau jour, elle s'est convaincue que tous ces gens qui lui racontaient ces récits ne pouvaient pas tout simplement inventer ou rêver ou halluciner, mais vous avez vu quelque chose.
Je revois encore cet homme comme s'il se trouvait sous mes yeux en ce moment même. Toutes ses formes étaient humaines, mais la peau de sa poitrine, de son dos et de ses épaules était couverte de poils broussailleux d'une couleur brun foncé. Au-dessous de la poitrine, les poils étaient plus fins et plus doux. Les mains, assez grossières, étaient ornées de poils plus clairsemés. Les paumes et la plante des pieds en étaient tout à fait dénuées. Sur la tête, en revanche, les cheveux étaient très longs. Ils descendaient sur les épaules et couvraient partiellement le front. Et ils étaient rudes au toucher. Il n'y avait ni barbe ni moustache. Tout le visage ne présentait qu'une pilosité très légère. L'homme se tenait debout, tel un Hercule faisant saillir sa cage thoracique puissante et développée. Aux mains, on remarquait des doigts très épais et solides, d'une longueur insolite. Le visage était d'une couleur extraordinairement foncée. Les sourcils étaient très épais. Au-dessous d'eux, les yeux étaient profondément enfoncés. Mais le regard de ses yeux n'exprimait rien. Il était purement bestial. L'être en question n'avait pas la moindre réaction humaine. Il n'émettait que des beuglements nasillards. Sur la poitrine, le cou, et plus particulièrement le visage, il y avait une multitude de poux qui, sans conteste, n'appartenaient pas aux trois espèces parasitant l'homme. Lieutenant-colonel Vaskem Karapetiane, médecin neuropathologiste, à propos d'un examen pratiqué au Daghestan l'hiver 1941.
J'ai retrouvé un texte que m'avait signalé Georges Arachidzebe, qui est un grand spécialiste des mythologies, des folklores du Caucase, qui m'avait expliqué que l'almastite est bien connue de lui, mais également d'un de ses prédécesseurs illustres, Émile Benveniste, qui avait publié en 60 un article dans le journal asiatique. Et j'ai retrouvé cet article, et effectivement, c'est l'article complet sur l'almastie. Et Benveniste ne parle pas du tout de la même chose. Il parle de récits, de folklore, et d'un démon local, d'une figure locale de démon, qui est un être qui est à la fois une créature, effectivement, avec, en gros, cornes et griffes, quoi, la bestiole telle qu'on nous l'a décrit dans les traités de cryptozoologie, mais qui est également capable de se métamorphoser, de se transformer en nuée, et qui a toutes les figures d'un démon et qui vient en fait des traditions de l'islam, de l'Iran et tout. Et Benveniste retrace toute l'histoire de ce démon. Et à aucun moment il n'en parle, alors que, bon, il est évident que Benveniste a entendu parler du Yéti à l'époque où il a publié son article, et même à l'époque où, en 47, quand il a fait ses expéditions dans ces coins-là. Il en a entendu parler, mais à aucun moment il n'évoque la figure telle qu'on la connaît par la cryptozoologie. Donc, quand on suit après le travail de Porchneff, on se rend compte que Porchneff, également cette créature, il la connaît, il connaissait comme une créature de folklore, de récit, mais il a été intéressé par l'idée qu'il pouvait y avoir derrière ces récits autre chose. C'est-à-dire qu'il pouvait y avoir une part de folklore qu'il fallait mettre de côté, et une part de... une créature zoologique qui n'aurait pas été reconnue parce que les paysans localement n'auraient pas su la mettre dans la bonne classification, dans la bonne catégorie. Et lui, à partir de ses récits, a commencé à faire une classification qui a été poursuivie par le travail de Marie-Jeanne Kaufmann, qui ont cessé à faire un tri et à dire, derrière, il n'y a pas que du folklore, il y a une créature zoologique réelle qui pourrait être, alors bon, c'était la théorie qui était avancée, un survivant des Néandertaliens.
Mais justement, quand les cryptozoologues ont cette démarche, est-ce que c'est pas aussi lié au fait qu'ils font un tri arbitraire à partir des données recueillies dans les populations enquêtées et qui, bien évidemment, n'ont pas les mêmes grilles culturelles, les mêmes grilles épistémiques que le cryptozoologue ?
Nous, on a tendance à dire ces histoires de cryptozoologues, c'est de la croyance, mais le cryptozoologue lui-même utilise très bien la catégorie de la croyance. C'est-à-dire que Marie-Jeanne Kaufmann, quand elle parle de l'almastie, elle dit, bon, il y a tel détail qu'il raconte et tout, effectivement, s'il parle de transformation de l'almastie et tout, ça, c'est pas crédible. Ils ont rajouté du folklore dessus. Ils ont rajouté une couche de croyance pour l'intégrer à leur culture. Et simplement, ils ont mythologisé une créature zoologique. Et donc, les cryptozoologues auxquels on reproche d'être dans la croyance reprochent également à leurs informateurs d'être en partie dans la croyance. Donc, ils utilisent les mêmes catégories que nous. Ils font le partage, ils font une espèce de grand partage entre l'irrationnel et le rationnel. Et ils vont rationaliser, factualiser une créature qui, au départ, sinon, serait impure et ne serait pas utilisable par un zoologiste.
Et pourquoi ces animaux nous intéressent ? Parce que ces monstres font recette.
Il y a des intérêts très différents. C'est-à-dire, il y a l'intérêt du grand public qui va s'intéresser spontanément à des tas de créatures comme ça, qui va s'intéresser une fois aux soucoupes volantes, la saison d'après au monstre du Loch Ness, et l'été suivant ou l'hiver suivant au Yeti. Mais l'intérêt, si on prend l'intérêt d'autres, comme des vulgarisateurs de sciences, des gens qui veulent être des spécialistes, des gens comme Bernard Heuvelmans, qui a longtemps écrit dans Science et Avenir, qui a écrit, avant d'écrire ses ouvrages, a publié tout un tas d'articles dans Science et Avenir dans les années 50, l'intérêt n'est pas donné comme étant un intérêt populaire, c'est un intérêt savant. On a une figure populaire qui est transformée en un objet savant. Moi, j'avais suivi le même processus pour les soucoupes volantes. On a des récits qui sont faits par des gens, qui dans un premier temps vont être l'objet de vagues d'intérêt journalistique, de publications d'articles, alors qui vont restituer les faits de façon plus ou moins exacte. Et derrière, il y a des gens qui vont s'instituer spécialistes, qui sont de formation scientifique ou pas, qui sont des fois des amateurs, et qui vont dire il faut dépasser cet intérêt journalistique qui est complètement superficiel, qui ne va pas au fond des choses et tout, et il faut en faire un vrai objet de science, et qui vont donc prendre ces récits et essayer de construire des vraies classifications et d'en faire, de faire des publications scientifiques, de faire des ouvrages qui ont un look scientifique.
Michel Murger, il y a un autre monstre qui fait recette au XXe siècle, c'est le fameux Nessie du Loch Ness, mais c'est vraiment un monstre contemporain, celui-là.
Oui, tout à fait. Moi, j'insisterai même sur la qualité moderne de ce monstre, parce qu'en fait, il n'apparaît pas avant 1933, du moins avec les formes qu'on lui donne, c'est-à-dire Nessie est connu du grand public international par ses formes. C'est une créature à multiples bosses, avec un long cou de cygne et un corps assez gros. Donc, on le compare volontiers à un plésiosaure, à un reptile préhistorique survivant. Mais j'ajoute que quand on fait des recherches avant 1933, et dans le folklore, et dans les journaux, et dans la documentation naturaliste des hautes terres d'Écosse, on ne découvre rien de tel. C'est-à-dire que il y a bien effectivement une création de Nessie en 1933, et je trouve ça très intéressant parce que ça nous force à nous intéresser sur les registres, sur les catégories dans lesquelles apparaît Nessie. Est-ce que Nessie apparaît en tant que problème scientifique ou est-ce que Nessie apparaît comme problème journalistique? Et il y a un personnage qui m'a beaucoup intéressé à ce niveau, c'est, on peut dire, non pas le créateur, mais au moins le parrain de Nessie, c'est un certain Alex Campbell, qui était un garde-pêche. Et c'est un homme intéressant parce que c'est à la fois un homme de tradition, puisqu'il avait été élevé dans la culture gaélique, il racontait que dans son enfance, son père et son grand-père lui avaient raconté les histoires de la bataille de Culloden au XVIIIe siècle, donc un homme de tradition, et d'autre part aussi un correspondant de la Gazette locale. C'est-à-dire vous avez une espèce d'intermédiaire culturel entre le monde du folklore, le monde des traditions gaéliques, où l'on parlait des chevaux des eaux, des créatures surnaturelles qui vivraient dans les lochs et notamment dans le Loch Ness, et le monde de la modernité scientifique, où là, il n'est plus question de kelpie, le cheval des eaux, mais effectivement de dinosaures ou de plésiosaures rescapés, donc de créatures qui peuvent être attrapées, photographiées, en tout cas introduites dans nos catégories d'études.
Le brouillard de l'aube se dissipait rapidement, comme je sortais de mon petit cottage sur les rives du Loch Ness. C'était un matin de juin 1934. Alors, comme le brouillard se déchirait sous l'effet de la chaude lumière solaire, j'aperçus le spectacle le plus incroyable qu'il m'ait été donné d'observer durant les 30 années où j'avais exercé les fonctions de garde-pêche au bord du plus grand lac d'Écosse. Quelque chose ressemblant à un monstre des temps préhistoriques émergea des eaux. Quelque chose qui mesurait bien 30 pieds de la tête à la queue. Cela avait un long cou sinueux et une tête plate, reptilienne. Sa peau était d'un gris noir, d'une apparence rude. Et à l'endroit où le cou rejoignait le corps, s'élevait une bosse géante, comme celle d'un chameau, quoique beaucoup plus volumineuse. Je me pinçais douloureusement, mais je ne rêvais pas. Le monstre du Loch Ness était bien là, dans l'eau, réel et tangible. Témoignage d'Alex Campbell, publié dans Everybody's Magazine, le 21 mars 1959.
Et à partir de quand apparaît ce contexte merveilleux en Écosse? Parce qu'il semble que dans la littérature, ça apparaisse beaucoup plus tôt, au XVIe siècle notamment.
Eh bien, ce contexte merveilleux, il est encore beaucoup plus ancien, puisque vous n'ignorez pas qu'au VIIe siècle, dans la vie de Colomba, qui a été écrite par un de ses successeurs, il est question, effectivement, d'une observation, ou du moins, non pas d'une observation, mais d'une rencontre avec un monstre, non pas lacustre, mais de la rivière Ness. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez déjà cette dimension merveilleuse qui est fixée, sinon sur le Loch Ness, du moins sur la région des Hautes-Terres, avec les histoires de créatures fantastiques, etc. Le problème, c'est qu'effectivement, on ne peut pas considérer cette documentation comme une sorte de libre-service où on pourrait piquer à droite et à gauche les éléments qui nous intéressent et créer effectivement des animaux mystérieux à partir de documents folkloriques. Il faut restituer le document folklorique, l'ethnotexte, à son contexte d'éclosion, à savoir le domaine traditionnel. Et à partir de là, les folkloristes, les ethnologues, voient d'un très mauvais œil l'attitude des cryptozoologues qui détruisent les catégories, qui les rendent floues. C'est-à-dire qu'il est bien certain que considérer, par exemple, un cheval des eaux comme une créature inconnue cachée sous une mythisation. C'est peut-être très pratique pour les cryptozoologues, mais ça détruit complètement le sens qu'acquièrent ces créatures dans la culture traditionnelle où on en parle. Je pense que dès le début, on doit respecter le contexte des sources qu'on utilise.
Alors est-ce que justement, c'est pas ce que font une partie des cryptozoologues quand ils font référence donc à certains textes anciens, et notamment le fameux miracle de Saint Colomba, où là on est comme tous les miracles de l'époque, c'est Saint Georges, Saint Michel, Sainte Marthe.
Ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut dire que le cryptozoologue McCall a classé la rencontre avec le monstre de la rivière Ness comme la première observation de Nessie. On pourrait dire qu'à ce titre, on pourrait considérer Sainte Marthe comme le premier témoin de la Tarasque. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un élément là extrêmement naïf, c'est-à-dire que le caractère hagiographique du document n'est pas pris en compte. Et je dois dire que quand on restitue le document à son contexte, on voit qu'avant, le saint arrête un sanglier en pleine course par la prière. La page suivante, il arrête aussi un bateau sur le courant. C'est-à-dire que je crois qu'il ne s'agit pas de dire d'un côté on a la croyance et de l'autre on a la réalité, mais bien plutôt que dans le cas du document géographique, on a affaire à un monde dans lequel la surnature infuse la nature.
Une autre fois, comme le saint homme était revenu pour quelques jours dans la province des Pictes, il lui fallut traverser la rivière Ness. Arrivé sur la berge, il vit quelques indigènes qui portaient en terre un homme infortuné que, suivant les dires de ceux qui l'enterraient, une bête aquatique avait happé et grièvement mordu peu de temps auparavant alors qu'il nageait dans la rivière. Le cadavre du malheureux avait été récupéré, bien qu'il fût trop tard, à l'aide d'une gaffe, par des hommes venus en barque le secourir. Le saint homme, en entendant ce récit, loin d'être effrayé, ordonna à l'un de ses compagnons de se jeter à l'eau et de traverser la rivière pour ramener la barque. Mais l'appétit du monstre, loin d'être satisfait, avait seulement été aiguisé et il se tenait caché sur le fond. Quand il vit que l'eau en surface était agitée par le nageur, il émergea soudain et poussant un horrible rugissement, se rua gueule béante sur l'homme qui se trouvait au milieu de la rivière. Voyant cela, le saint homme leva la main, tandis que toute l'assistance, païens et frères, était frappée de terreur. De sa main sainte, formant le signe salvateur de la croix, en invoquant le nom de Dieu, il commanda à la bête féroce en ces termes. « Ne va plus avant, ni ne touche cet homme. » « Retire-toi, vite !» Le monstre, terrifié par la voix du saint, s'enfuit plus rapidement que si on l'avait tiré avec des cordes. Lors, les frères, voyant que le monstre s'en était retourné et que leur camarade revenait sain et sauf avec le bateau, frappés d'émerveillement, glorifièrent Dieu en ce saint homme. En outre, les païens barbares qui se trouvaient là, subjugués par la grandeur du miracle auquel ils avaient assisté, louèrent aussi le Dieu des chrétiens. Adomnan, vie de Saint Colomba, 7e siècle après Jésus-Christ.
Entre 565, qui est censé être l'époque où Colomba aurait rencontré un monstre sous la rivière Ness, et 1933, il faut bien reconnaître que les sources au Loch Ness sont totalement silencieuses. Si vous voulez, les événements de 1933 et 1934 sont une espèce d'explosion de l'imaginaire qui ne s'est plus reproduit après. Parce que très curieusement, après 1934, on en parle beaucoup moins et il faudra attendre les années 50 pour que l'affaire reprenne un point du poil de la bête, à mon avis, dans la foulée de l'affaire du Yéti. C'est-à-dire que le grand succès des expéditions de recherche au Yéti donne de l'intérêt pour tous les dossiers cryptozoologiques et permet à l'affaire du Loch Ness de repartir, donc.
Alors justement, il va y avoir une pause, si on peut dire, dans l'affaire du Loch Ness, puisqu'en gros, les gros témoignages, c'est 33-34, où les récits se multiplient, on le photographie, etc. Ensuite, la guerre éclate, on n'en parle plus. Et puis dans les années 50, on s'y intéresse de manière un peu différente. C'est là où, pour la première fois, des scientifiques, des zoologistes notamment, vont aller enquêter sur le Loch Ness.
Alors, ce qui s'est passé, c'est parce que vous avez eu le livre de Tim Dinsdale qui est paru en début des années 60, et aussi le livre de Maurice Burton, qui était un notable du British Museum et qui a écrit un livre beaucoup plus sceptique, mais tout de même un livre intéressé en se demandant s'il n'y avait pas une créature tout de même inconnue, tout en, rationalisant et critiquant un grand nombre des sources. Il y avait donc un climat qui était favorable, et à la suite de ça, il y a eu la création d'une institution spéciale pour rechercher effectivement le monstre du Loch Ness. Les résultats n'ont pas été extrêmement probants, et finalement, à la suite de ça, on a fait appel aux Américains qui sont venus avec des matériaux technologiques extrêmement sophistiqués, caméras sous-marines, sonars, et qui, eux, en 72 et 75 surtout, ont obtenu des résultats qui, à l'époque, ont paru extrêmement importants, à tel point qu'il était question de créer une nouvelle catégorie zoologique pour y inclure Nessie. On lui a même donné un nom scientifique, Nessiteras rhombopteryx, c'est-à-dire l'animal du Ness avec une nageoire losangique. Et il était question à l'époque, effectivement, d'une véritable reconnaissance scientifique, reconnaissance qui, je l'ajoute, a fait long feu. Dans un premier temps, il y a eu des critiques. Dans les années 80, on a repris le dossier des observations sous-marines et on s'est rendu compte que, finalement, ces observations pouvaient être critiquées, que, finalement, il y avait eu un travail sur les photographies sous-marines. Ensuite, une des photos qui avait été faite d'une soi-disant tête de l'animal a été interprétée par des partisans, d'ailleurs, de Nessie, comme étant un tronc d'arbre du fond du loch qui avait été photographié et pris par erreur. Donc, il y a eu aussi cette photo qui avait été faite en 1934, la photo représentant une sorte de coup de cygne. On a discuté avec un vieil homme qui a fini par avouer, semble-t-il, que cette photo avait été truquée, etc. Donc, vous avez un phénomène d'érosion des données. Donc, moi, je crois que ce qui est très intéressant dans cette affaire, c'est qu'en microcosme, vous avez une cause de zoologie spéculative qui se construit et qui est en train actuellement de s'effriter. Quand je dis s'effriter, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas encore durer très longtemps, puisque récemment, on a mis en activité un sous-marin de poche, et quand vous connaissez le Loch Ness, ça fait doucement rire, parce qu'effectivement, on ne voit pas grand-chose avec la tourbe en suspension dans les eaux. Ben, n'empêche qu'on a mis vaillamment en activité un petit sous-marin, et vous avez vaillamment un brave Anglais qui a payé une assez forte somme pour descendre, et qui a eu, bien entendu, il a vu quelque chose, il a même fait une magnifique photographie où moi, personnellement, je vois goutte, mais lui voit la tête du monstre qui sort d'une caverne. Et c'est très important parce que c'est une espèce de tâche de Rorschach. C'est-à-dire que, au fond, c'est peu important de savoir s'il y a quelque chose ou pas, mais ça permet au débat de repartir. Finalement, je pense que le temps du grand effort cryptozoologique, du grand romantisme des années 70 est passé. Et je suis intéressé par le fait que en 75, on voulait donc baptiser Nessie. En 75, c'était aussi l'époque où on pensait que l'ufologie pourrait effectivement être éventuellement officialisée en France. C'est aussi à peu près l'époque où on parlait beaucoup d'Uri Geller et des pouvoirs qu'il était censé détenir. C'est-à-dire que je pense qu'on ne peut pas dissocier cet effort de zoologie spéculative au Loch Ness, de tout un ensemble de dossiers du paranormal qui, à l'époque, semblait avoir le vent en poupe. Ce n'est plus le cas aujourd'hui.
J'aperçus une vague étrange apparaître dans l'eau calme à 100 yards du rivage. Cette vague enfla alors qu'elle roulait vers la berge. Et alors émergea des hauts fonds une bête ressemblant à un cheval, mais dont le corps avait la forme de 5 bosses. À l'aide de ses nageoires, la créature se propulsa vers la plage, le corps se déplaçant en se tortillant comme un ver ou une anguille. Comme la bête se frayait un passage à terre en rampant comme un ver, 12 bosses apparurent. La tête était plus petite et plus épaisse que celle d'un cheval, et une crinière abondante recouvrait le cou. La bête secouait l'eau de sa crinière comme le fait un cheval par temps humide. Je vis cette bête se nourrir d'algues et de plantes aquatiques du rivage à l'endroit où le sol est mou et marécageux. Son corps, pas très volumineux, avait 30 pieds de long. Lorsque son corps sortit du loch en se tortillant, je crus qu'il ne finirait jamais. Les yeux étaient petits. C'est la chose la plus singulière que j'ai jamais vue. Je pensais un moment, étant seul, que je devais courir jusqu'à la maison la plus proche, mais craignis que si je tournais les talons, la bête disparaîtrait. Je n'avais pas d'appareil photo. J'ai dû l'observer durant une heure, car la cloche du monastère sonnait 10 heures, comme la bête rejoignait le loch en se tortillant et y disparaissait en de grandes éclaboussures. Témoignage de Jan Matheson, publié par le Scotsman du 7 juillet 1934.
Les animaux fantastiques, des monstres qui font recette, avec aujourd'hui la participation de Pierre Lagrange, sociologue, et de Michel Meurger, rédacteur en chef de Scientifiction. Texte dit par Catherine Laborde, documentation INA, Martine Auger, Xavier Carrère, le cabinet de curiosité, Sylvain Barassetti, Bernard Charon, Malika Mesgache, Jacques Cogé.
C'était le cinquième et dernier épisode de la série « Les animaux fantastiques » de Jacques Cogé pour le cabinet de curiosité. Diffusé pour la première fois le 27 février 1998 sur France Culture.